de voter autant de fois que vous le désirez. Il n'y a que si jamais on a des ex-échos qu'on reprendra le vote, et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez voter qu'une fois, histoire de départager deux questions. Voilà. Donc, je vous propose de débuter tout de suite. Qui aurait des propositions, soit de sujets, soit de thématiques, qu'il aimerait voir traitées?
Alors moi, je vous passerai le micro et on vous recommande de parler comme ça. Parce que quand on parle comme ça, on a beau être tout près, on n'entend pas. Vous voyez toute la différence. Voilà. C'est pas jamais évident, parce qu'on est dans ses pensées tout après, puis on est souvent comme ça. Voilà. Donc s'il y a des questions, je vous passerai des propositions, je vous passerai le micro.
Alors, peut-on justifier la colère ?
D'accord, peut-on justifier la colère ?
Faire face à l'incertitude.
D'accord, faire face à l'incertitude. Oui.
Chance ou destin?
Chance ou destin? Oui, madame.
Générosité jusqu'où?
La générosité, virgule, jusqu'où? Ça va à peu près pour tout le monde. Ça nous fait, ça nous donne le choix entre quatre sujets. Donc le premier étant, Marie-France.
Peut-on justifier la colère?
Donc voilà, peut-on justifier la colère? Qui vote pour? Là. Donc. Je vous rappelle, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Faire face à l'incertitude.
Faire face à l'incertitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Chance ou destin?
Chance ou destin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
La générosité jusqu'où?
La générosité jusqu'où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on est sur...
Faire face à l'incertitude.
Ok, faire face à l'incertitude. Alors, on a coutume de débuter en laissant la personne qui a proposé le sujet nous expliquer ou nous donner peut-être les raisons de son choix. C'était... Voilà. Donc, Daniel.
Patrick qui va passer le micro au point.
D'accord, ok. Donc, voilà, faire face à l'incertitude. C'est monsieur. Oui.
Merci. Pourquoi cette question ? Parce qu'il se trouve que dans la vie, dans nos vies, nous sommes très souvent confrontés à des choix qui nous posent des questions générales mais aussi intimes. Et comment pouvons-nous, en le partageant, soit à partir d'une réflexion personnelle, soit à partir d'échanges, nous situer justement devant ces questions qui nous sont posées, y a-t-il toujours des réponses ?
Alors, dans le domaine, enfin, la question, elle s'originerait plus donc du rapport à l'intime. D'accord, ok. Donc c'est quand je suis confrontée à des questions personnelles, en fait, que l'incertitude peut avoir lieu. Et du coup, comment choisir ? Ça serait ça ?
Oui, mais au-delà, sur le plan plus général, les questions qui nous sont posées, comment nous situons-nous en tant qu'individu et en tant que personne faisant partie d'une communauté, d'un groupe, d'un groupe social.
D'accord, parce que l'incertitude, effectivement, elle peut relever de l'intime, mais elle peut aussi relever du collectif. Hein. Quelle décision prendre pour choisir la société dans laquelle on voudra vivre demain. Ouais. Comment choisir ? Comment choisir ? Et est-on sûr que les choix que nous allons faire seront les bons ? Voilà. Parce que dans l'incertitude, il y a ça. Si on était certain, le choix poserait pas problème. Mais le problème, c'est que dans l'incertitude, il y a toujours du coup le risque du choix que nous faisons. Effectivement. Ouais. Donc, dans ce cas-là, pourquoi choisir presque, la question. Pourquoi choisir ? Oui.
Il faut appuyer sur le bouton.
Faire face à l'incertitude, on peut très bien fuir aussi.
Oui, alors dans la fuite, l'idée, ça serait de ne pas choisir, c'est ça ?
Ben, y a pas forcément un choix. Lorsqu'il y a une incertitude, ça peut faire à ce point peur qu'on se pose même pas la question de choisir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on fait demi-tour, il n'y a aucune réflexion.
Ouais. Mm-hmm. Éviter le danger, c'est ça ? Oui. Ouais. Est-ce qu'on le peut à chaque fois ?
Oui, je poserai la question sur l'incertitude. Peut-être qu'il faut préciser l'incertitude par rapport à quoi ? Est-ce que c'est effectivement sur le plan individuel, sur le plan collectif ? Est-ce que c'est l'incertitude par rapport à, par exemple, au fait d'être heureux suite à une décision, un risque ? C'est quoi vraiment l'incertitude ? Parce que je pense que ça peut pas être très collectif. L'incertitude, c'est chacun qui la ressent. Je pense, par exemple, une question très collective en ce moment du réchauffement climatique, par exemple. Y a des gens qui sont plus ou moins, effrayés par le réchauffement climatique. Y a une incertitude, malgré tout, sur cette question-là, qu'on ressent chacun intimement et qui est déjà en train de conditionner des choix collectifs. Donc, c'est où que se situe l'incertitude, finalement ? Et le résultat du choix qu'on va faire malgré cette incertitude, il est pour qui ? Il est individuel ? Il est collectif ? Après, comment on s'approprie la décision collective quand soi-même, on n'est pas forcément dans la même certitude, finalement ?
Mm-hmm. Oui. Alors, peut-être, pour reprendre la chose, c'est que on pourrait envisager au niveau, si on prend l'exemple du réchauffement climatique, qu'il y aurait deux dimensions. C'est-à-dire, on peut très bien avoir la finalité, enfin, la raison d'être d'une décision, sa finalité, qui pose pas plus de problème que ça. C'est-à-dire, effectivement, il y a réchauffement climatique. Voilà, la chose, elle est donnée. Le problème, c'est ensuite les moyens. Quels moyens mettre en place par rapport à ce changement climatique. Et là, l'incertitude, effectivement, elle peut être présente.
Est-ce qu'il faut passer au tout électrique? Est-ce qu'il faut arrêter complètement toute logique de mobilité? Est-ce qu'il faut développer l'énergie solaire? Enfin, du coup, comment agir? Ouais. Mm-hmm.
Avec l'incertitude aussi du
résultat. Avec l'incertitude totale du résultat, du coup. Tout à fait. Mm.
Pour le réchauffement climatique, je ne sais pas si on est tant dans une question d'incertitude, parce qu'on a plein de solutions, c'est juste, est-ce que les politiques veulent les mettre en place? Ça, c'est un autre point. Par contre, ce que je voulais dire, c'était par rapport aux périodes d'incertitude, j'ai l'impression que, justement, dans cette période, dans ces périodes-là, on a absolument besoin de se positionner quelque part pour se rassurer. Je pense par exemple à la période du Covid où on avait finalement des positions qui étaient de plus en plus radicales, plus on était dans l'incertitude, pour ou contre le masque, pour ou contre le vaccin, et que justement, parce que c'était incertain, il y avait une polarisation qui faisait qu'il n'y avait plus de discussion possible et que c'était presque intolérable de ne pas savoir ou de ne pas se positionner pour l'un ou pour l'autre. Et que si tu n'es pas pour, c'est que tu es contre et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que justement, pour se rassurer dans cette incertitude-là, qui, dans ce cas-là, est sans doute extrême, puisqu'on ne savait pas à quoi on avait affaire, il y avait ce besoin absolument de trancher, en effet.
Je pense que faire face à l'incertitude, c'est le prix qu'on doit payer pour avoir le droit d'avoir une pensée critique. Parce que actuellement, il y a l'incertitude, par exemple, par rapport au réchauffement climatique, parce que les arguments d'autorité ne sont plus respectés comme avant. Parce que quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'incertitude. C'est l'Église, c'est l'État. Moi, je suis brésilienne et au Brésil, on vivait à ce moment-là une dictature. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'incertitude. Il avait une loi claire. Il fallait tout simplement respecter. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien faire face à l'incertitude. C'est quelque chose qu'on doit être très heureux de faire face à l'incertitude. Et aussi parce qu'on cherche parfois la perfection, et la perfection, ce n'est pas donné à nous. C'est-à-dire que je pense que la meilleure façon de faire face à l'incertitude, c'est accepter.
D'accord. L'incertitude comme possibilité de développer son esprit critique.
Oui. Moi, je me pose la question de savoir si il y a des domaines sur lesquels on peut avoir des certitudes. En fait, parce que je pense que sur peut-être des aspects scientifiques, on peut peut-être avoir certaines certitudes, mais encore, on s'aperçoit bien que c'est quand même pas forcément le cas. Et puis sur notre vie quotidienne, notre vie de pauvre humain, on voit bien que on a très peu de certitudes. Le cours des choses ne s'infléchit souvent pas du tout comme on pouvait l'imaginer, parce qu'on n'en est pas maître, et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je pense que la question, c'est peut-être une question de contrôle aussi.
On voudrait ne pas être confronté à l'incertitude, voilà. Parce qu'on aimerait, parce qu'on voudrait pouvoir contrôler.
Elle fait peur, effectivement, cette incertitude, mais elle est inhérente à notre vie,
voire à notre condition d'être.
À notre condition d'humain.
Oui.
En prolongement de ce que vous venez de dire, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une certitude, c'est que personne parmi nous n'est divin, et la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on va tous mourir. C'est notre finitude. De ce fait-là, faire face à l'incertitude, c'est faire face à la vie. Et c'est accepter la mort. D'une certaine façon. Donc, les incertitudes, c'est notre quotidien, c'est notre façon d'appréhender la vie le mieux possible. Ça, c'est généraliste, mais...
Mais du coup, ça pose le problème de la fuite. C'est-à-dire, effectivement, au départ, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir fuir, c'est-à-dire ne pas avoir à être confronté à cette incertitude, mais du coup, est-ce qu'on peut ne pas avoir à faire face à l'incertitude ? Rien n'est moins certain, oui. Oui ?
En fait, pour moi, je trouve que l'incertitude, dans le fond, c'est une liberté merveilleuse qui nous est donnée à nous, êtres humains, de pouvoir justement être confrontés à des choix par rapport à ce qu'on rencontre dans la vie. C'est pas toujours merveilleux, bien sûr, mais moi, je le vois en termes de liberté. De liberté pour... parce qu'un animal, il a rien, hein, je veux dire, il a... Et nous, on a la liberté. On a la liberté merveilleuse de pouvoir faire des choix. Évidemment, c'est pas toujours très drôle d'être dans l'incertitude, mais c'est très bien de pouvoir choisir.
Mm-hmm. Tout à fait. Ouais. Donc là aussi, on retrouve un peu cet esprit de l'esprit critique. Du coup, effectivement, il n'y a d'incertitude qu'à partir du moment où on accepte de prendre le risque de penser, cette liberté de penser. Et donc, voilà, il va falloir déterminer quels vont être les choix qu'on va faire, avec le risque énorme de ce que ça implique, parce qu'effectivement, l'incertitude, c'est qu'on n'est pas assuré que les conséquences de nos choix seront bien celles qu'on espère. Oui, on retrouve le problème de l'espérance. Oui.
Et quel serait un monde pétri que de certitudes ?
Alors, on en a eu une petite réponse, il me semble. Hein. Voilà. Les tyrannies, les mondes totalitaires. Ouais. Mm-hmm.
C'est une vraie liberté.
Donc, c'est ouais, une vraie liberté.
En respectant les autres, mais c'est une vraie liberté. Mm-hmm.
Du coup, aussi, quelque part, comme on cherche constamment à avoir des réponses, c'est aussi ça. Hein, un enfant, on parlait de l'enfance tout à l'heure, c'est toujours des pourquoi. Il a besoin d'être rassuré. On parlait du fait que on cherche des réponses, et des fois c'est difficile de s'y confronter, mais du coup, le fait, si à un moment donné on a des certitudes, comment est-ce qu'on continue d'avancer ? Est-ce que c'est pas être figé finalement que d'avoir des certitudes, et là, et être capable d'avoir encore des incertitudes, c'est toujours pouvoir encore avancer finalement quelque part, aller quelque part. Si on ne pose plus de questions, par exemple, est-ce que finalement on est pas, voilà, comme une statue finalement, on bouge plus. Donc est-ce que finalement c'est pas moteur ?
Alors, j'ai pardon, l'incertitude comme liberté, ça je le pense que c'est très vrai. En revanche, l'incertitude, il me semble qu'aujourd'hui, en dehors des risques qu'on va avoir à gérer, que les humains au niveau de la planète entière, l'incertitude, elle est liée aussi au degré de réflexion qu'on peut avoir, à la profondeur de réflexion. Et peut-être que, alors si on remonte les premiers humains sur Terre, c'était juste la survie. Ils ne se posaient pas autant de questions que nous. C'est un peu fort comme. Mais avant le un peu plus près de nous, avant le siècle des Lumières, il y avait certains qui avaient l'esprit dit éclairé, je crois que c'est comme ça qu'on disait. Et puis les autres faisaient et ne se posaient pas de questions. Donc, sans doute avaient-ils moins de certitudes. Pour eux, l'incertitude, c'était le quotidien. Ils faisaient avec, ils ne se posaient pas trop de questions. Et puis, il y avait aussi, qui calmait un peu le jeu, c'est il y avait beaucoup de croyances, notamment des croyances religieuses. Et on disait, bah voilà, c'est comme ça, c'est le destin, c'est Dieu envoie des épreuves, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est sorti. La société est de plus en plus sortie de modèles, de croyances, de toutes sortes de croyances. On ne croit plus en grand. Enfin, quand je dis on, beaucoup de gens ne croient plus en grand chose. Peut-être même on est aussi trop matérialiste et du coup, l'incertitude, elle devient, elle devient de plus en plus difficile à vivre pour
des gens qui ont cette démarche-là. Quoi. Après, personnellement, les grandes incertitudes, enfin, ça ne va pas faire évoluer le débat, mais c'est plutôt comment l'espèce humaine va pouvoir se sortir de tous les défis qu'on a à relever. Ça, c'est limite même angoisse, un peu, parfois, quand on y réfléchit bien. C'est vraiment... Ça, c'est des incertitudes... C'est factuel, parce que les scientifiques nous avancent des chiffres et comme je le disais tout à l'heure, il y aura des décisions politiques à prendre, mais il y a aussi quelque chose qui contrebalance, c'est des décisions économiques. Et ça va fâcher certaines personnes aussi. Voilà. Bon. Donc, incertitude, elle évolue au fil des siècles et je pense qu'elle ne se pose pas de la même façon que qu'elle se posait au siècle des Lumières et encore plus avant, évidemment, selon moi.
Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, on peut voir que le domaine de l'incertitude, en fait, il varie selon les différents modes par lesquels on la pense. C'est-à-dire, si on oppose incertitude à certitude, la certitude, on a presque envie d'aller la fonder de suite dans une logique scientifique. La science nous donnerait des certitudes. Et donc, pourquoi la science nous donnerait des certitudes ? Parce que la science, on la lie au domaine de la vérité. À partir du moment où on connaît la vérité, alors, effectivement, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux, il y a ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on connaît mal. Et donc, la certitude est rassurante parce que le vrai ne peut que me guider, j'ai presque envie de dire, vers le bien ou sur le bon chemin. L'incertitude, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça pourrait être un manque de savoir. Donc, du coup, effectivement, pourquoi choisir quand je suis dans l'incertitude ? Autant chercher à accéder à une certitude avant de faire un choix. Donc dans cette opposition à la vérité, effectivement, on voit que l'incertitude peut être une situation dans laquelle on se sent mal à l'aise. Par contre, si on commence à penser le rapport entre certitude et incertitude sur le mode où la certitude relèverait de la croyance, donc les choses, elles deviennent, là aussi, j'ai envie de dire, assez simples, très dogmatiques. C'est-à-dire, ben, la religion peut me donner des certitudes, etc. Et là, l'incertitude, ben, ça voudrait dire commencer à remettre en question un certain nombre de croyances. Déjà, peut-être en les reconnaissant comme telles. C'est-à-dire, si la croyance n'est pas ce qui me fournit une vérité, donc effectivement, je peux commencer à en douter. Et là, le siècle des Lumières, il s'ouvre comme ça, en fait. C'est-à-dire la prise de conscience que la majorité du temps, ce que j'appelle certitude, je pensais que ça relevait de l'ordre du savoir, mais en fait non, ça ne relève que de l'ordre de la croyance. Et là, ouh, danger, parce que effectivement, on rentre dans le dogmatisme, on rentre dans le collectif, on rentre dans la manipulation, et puis on se rend compte que quand on tente d'en douter, ça peut mettre jusqu'à ma propre vie en danger. C'est-à-dire que les autorités politiques, les autorités économiques, elles n'aiment pas ça. Quand tout d'un coup, on commence à dire, il est peut-être bon de douter, en tout cas de venir interroger les certitudes et de travailler l'incertitude. De se donner à soi-même cette liberté de pouvoir effectivement juger, évaluer les propositions qui sont les nôtres. Donc voilà, sur le devenir de l'humanité, la question, elle est peut-être autrement. C'est-à-dire, il y a la vérité, il y a la croyance, et puis, tout d'un coup, il y a ce domaine qui est en train de dire, mais est-ce que la vérité est accessible ? Voilà. Est-ce qu'un jour, on va savoir ce qui est vrai ? Est-ce que, en fait, toute décision ne doit pas être prise que d'un point de vue probabiliste ? C'est-à-dire, effectivement, je travaille mon savoir, j'essaye de penser au plus juste, j'essaye de penser au mieux, mais est-ce qu'on est capable de dépasser ce stade-là ? Et là, je dois admettre que, du coup, tout n'est peut-être que probable, alors avec du hautement probable, peut-être avec des probabilités qui sont, voilà, plus ou moins basses, mais il n'empêche que même mon hautement probable n'est jamais certain. Hein. Oui.
Pardon. Ma question à côté est toute simple. Je me dis que c'est normal, quelque part, qu'on soit dans l'incertitude, parce que on peut très bien avoir, à un moment donné, une certitude, Et forcément, la vie nous apprend que notre certitude, ben, à 15 ans, c'est pas la même qu'à 20, à 30, et que plus ça va, plus on avance, et on l'a dit, on a, au lieu d'avoir un choix, deux choix, trois choix, on en a des multiples, et c'est valable aussi pour la science. On peut jamais dire ça, c'est la vérité, parce que vous allez avoir 50 scientifiques et vous en allez avoir 25 qui vont penser d'une manière, et puis 25 qui vont complètement être différents aussi. Donc les choix sont plus difficiles, mais donc quelque part je trouve ça normal qu'on soit dans l'incertitude, même si c'est pas confortable tout le temps. Mais effectivement, ça quand même, ça nous permet quand même de nous remettre en question. Et ça, c'est intéressant, parce que je crois qu'on est dans une époque où il faut se remettre en question par rapport à justement les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend. Et c'est de plus en plus difficile, effectivement, de faire des choix. Mais c'est quand même la liberté.
Alors moi, je me suis un petit peu perdue. Je voulais revenir à quelque chose de plus corporel, en fait. Parce que je me dis que faire face à l'incertitude, si on prend l'exemple, si on monte sur un radeau, en fait, et on fait face à l'incertitude d'une rivière qui est vraiment agitée, en mouvement, ben c'est fatigant. Et puis, ben pour faire face, il faut quand même avoir des bases solides. Et puis, ça m'a fait penser un moment aussi à... Il faut quand même avoir certains automatismes au niveau corporel pour faire face à des situations d'ordre problématique, notamment en sport. Il faut quand même reposer, le corps faut qu'il repose des automatismes de manière à libérer justement le canal de l'information. Donc je pense que le corps a besoin, lui, d'avoir des bases solides, certaines de certains gestes où il a plus besoin de réfléchir, qui fait ça de manière un peu automatique. De manière de faire face quoi, au danger.
Voilà. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait pouvoir fonder l'incertitude sur des certitudes ? C'est ça que ça voudrait dire ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait faire face à l'incertitude que s'il y a une forme de confiance ? Hein, c'est ça, hein ? C'est-à-dire, ouais. C'est évident, quoi. Mais même sur le radeau, j'ai envie de dire. À un moment donné, il faut bien que j'ai confiance en moi. Il y a possibilité de s'en sortir, même si je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il faut que j'ai cette confiance en moi pour oser aller affronter l'incertitude.
La confiance, elle passe par des savoirs et une maîtrise, en fait.
Ouais. Ouais. Donc il faut une base solide. Ouais.
Peut-être pour commenter sur le radeau, pour essayer de s'en sortir le mieux, c'est peut-être l'expérience, c'est-à-dire acquérir des réflexes qui permettent la survie en dehors d'une connaissance particulière qui serait peut-être prise à défaut dans des circonstances que vous évoquez. Je voulais évoquer aussi la possibilité, face à l'incertitude, une des voies qui nous est proposée, c'est aussi de pousser la connaissance. Plus nous pousserons la connaissance, plus nous essaierons justement d'effacer le hasard, l'incertitude, autrement dit, faire le retournement de cette incertitude qui s'efface ou qu'on essaye d'effacer par l'acquisition de connaissances de plus en plus affinées.
Mmh. Oui.
Juste une réflexion. J'entends parler voilà, de connaissances, de vérité, mais à un sens beaucoup plus large en sortant de cas pratiques ou plus concrets dans le sport ou autre, dans nos vies au quotidien. En fait, est-ce qu'on pourrait aborder peut-être le sujet de la connaissance en général, de la recherche ? C'est quoi la vérité dans la vie voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, mais...
Je pense que c'est au cœur du sujet. C'est-à-dire, effectivement, la difficulté est de cerner ce qu'on entend par incertitude. Et donc, comme l'incertitude s'oppose à la certitude, du coup, où doit-on aller chercher nos certitudes ? Alors, c'est vrai que l'expérience, moi, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que l'expérience implique une temporalité. Dans la logique du dogmatisme, par exemple, la religion ou autre, hein, mais en tout cas quand il y a une vérité qui me tombe du haut, elle m'est donnée, j'ai pas à la discuter, à la limite je la prends et je l'applique. L'expérience, c'est différent quand même. Parce que l'expérience, ça veut dire qu'à la limite, je peux avoir une certitude qui se pense comme une croyance. Par exemple, je descends une rivière en eau vive, et puis je peux tomber. Mon radeau, il peut chavirer. Donc, si j'arrive à m'en sortir, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'était pas bon, quoi. Et donc, petit à petit, le savoir que je vais acquérir par expérience va me venir du fait que ce que je fais, les conséquences de ce que j'ai entrepris, j'ai simplement envie de dire ça marche, ça fonctionne, c'est utile. Ce que j'en attendais, c'est à peu près ça qui est advenu. Donc là, ça va me permettre effectivement d'accéder à un savoir-faire, à des apprentissages, à assurer de plus en plus la confiance que je peux avoir dans mon jugement parce que je sais. Et pourquoi je sais ? Parce que j'ai fait. Donc voilà, ce qui peut venir un peu lever l'incertitude, c'est effectivement l'expérience, j'ai envie de dire de façon très générale, de la vie, quoi. Voilà. C'est pourquoi la sagesse n'est peut-être qu'à atteindre en fin d'existence. Oui.
Moi, ça me fait penser à l'expression changement de paradigme, en fait. Il y a toute la démarche de la recherche scientifique et je suis assez d'accord avec l'idée que il y a quand même un fond angoissant, l'incertitude, même si c'est bien de pouvoir se remettre en question et toujours être en recherche, le fait d'avoir un socle sur lequel si on mettait toujours en cause tout ce qui se passe, c'est quand même c'est un peu nihiliste, quoi. C'est pas facile on vit dans une angoisse permanente, donc qu'il y ait des choses, on espère que demain le soleil va se lever et qu'on va ouvrir les yeux, c'est quand même pas mal. Et du coup, je pense que la recherche scientifique, même la recherche philosophique, de rechercher la vérité, c'est quand même quelque chose qui anime l'homme pour se rassurer aussi. Et du coup, par rapport à l'idée de changement de paradigme que j'avais un petit peu étudié, je trouvais assez intéressant où il y a un socle de connaissances d'un certain nombre de scientifiques ou penseurs, de manière générale, à une époque, jusqu'à ce que de nouvelles connaissances arrivent qui remettent en cause ce socle-là de connaissances, jusqu'à ce qu'il y ait un basculement. Et c'est comme justement le fait que Galilée qui avait dit que la Terre était ronde, c'est ça ? Je me trompe pas. Non.
Mais c'est surtout que elle tournait.
Oui, autour du soleil.
Je suis un peu fatiguée. Voilà.
Mais bref, le fait de changer ce paradigme-là, c'est très perturbant parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont reposés sur sur ces croyances en fait, et qui étaient rassurantes. Et du coup, de dire non, mais ça fonctionne plus comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on change d'état d'esprit, qu'on change le fonctionnement. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une forme aussi où on est un peu plus sur le capitalisme et qu'on se dit est-ce que ça fonctionne encore ? Il y a des choses comme ça. C'est pas évident de changer parce qu'on a besoin quand même d'avoir ce socle de confiance là, parce que
Alors c'est vrai, mais en même temps, dans le changement de paradigme, c'est que si le système fonctionnait bien, on ne chercherait pas à le changer. En fait, c'est que plus on travaille, plus on fait des recherches, plus on se rend compte effectivement qu'il y a des incertitudes. Voilà. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que pour qu'il y ait un changement de paradigme, il faut qu'on ose. C'est-à-dire, le nouveau paradigme, il va falloir aller l'inventer presque. Et c'est là où vraiment c'est intéressant. C'est-à-dire, la nouvelle certitude qui va nous être donnée, elle provient à la fois d'un travail de la raison, mais aussi en même temps d'un travail de l'imagination. Si on reste sur Galilée, avant le soleil tourne autour de la Terre, et il faut aller quand même oser penser, alors que je vois tous les matins le soleil se lever à l'est et puis se coucher à l'ouest, il faut quand même oser penser que, imaginer qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. Et que c'est pas tant le soleil qui tourne autour de la Terre que la Terre qui tourne autour du soleil. Et pourquoi ça devient un nouveau paradigme ? Parce que ça marche. C'est-à-dire, tout d'un coup, toutes les incertitudes que j'avais au préalable, elles se trouvent résolues par des calculs mathématiques qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, et surtout qui permettent des anticipations et des prévisions qui s'expérimentent. Donc voilà, les nouvelles certitudes naissent quand même de théories qu'on a osé proposer. Donc du coup, est-ce que la théorie, elle se présente comme vraie, mais elle relève aussi quand même de la fiction, au sens où il a fallu un travail de l'imagination. Donc, possibilité de rebondir sur de nouveaux paradigmes anticipables, quoi. Oui.
Monsieur. Faire des choix pour se projeter dans l'avenir, ça a certainement un côté angoissant, voire effrayant. Et la recherche de conseils, c'est certainement quelque chose de tout à fait normal. Par contre, moi, je suis surpris du succès énorme, apparemment, des influenceurs et des influenceuses qui, quelque part, se substituent à notre liberté de choix, enfin, pour ceux qui veulent bien se faire peut-être un peu manipuler, d'ailleurs. Après, il y a aussi, par rapport à ce besoin d'être un peu bordé dans la décision qu'on va prendre, je crois savoir que il y a aussi les médiums, les voyantes ou les voyants qui sont sollicités. Et alors on peut en sourire, mais après on sait par exemple qu'un ancien président, voire plusieurs politiques, encore aujourd'hui, font appel à ce genre de conseils pour les aider dans les décisions à prendre. Après, c'est toujours un peu inquiétant. Alors bon, mettons de côté les politiques, mais on va y revenir quand même. C'est toujours un peu inquiétant d'avoir besoin d'avoir peur de cette liberté. Et finalement, peut-être même que qu'une partie des gens, au moment des futurs votes qui vont arriver dans notre pays, auront besoin de se choisir un guide. Ça a quelque chose un peu de mystique. C'est un peu comme quand une génération de jeunes aujourd'hui qui semble un peu perdue se plonge dans la religion ou les religions et ne se pose plus de questions, veulent des certitudes par ce biais-là. Et moi, le fait qu'une partie des électeurs, par exemple, pourrait attendre un guide, un homme ou une femme providentielle, bah, c'est un petit côté un peu inquiétant. Ces gens-là seraient certainement prêts à mettre de côté leur liberté. Alors, je ne dis pas qu'une dictature, c'est un confort, hein, mais dans l'esprit de certains, je me le demande.
Il y a quand même un très beau titre d'Étienne de la Boétie qui s'intitule « De la servitude volontaire ». Eh oui, du coup...
Moi, j'avais plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, là. Le fait qu'on est quand même dans une société très privilégiée, malgré tout, même si on ne sait pas où on va et où il y a beaucoup d'incertitudes du point de vue climatique notamment, mais on le ressent probablement d'une manière très anxiogène parce que on est quand même dans une société où on a tout et on a beaucoup plus que d'autres parties du monde où ils n'ont pas le loisir et de se poser ce type de questions. C'est du superflu. Nous, on a tellement d'acquis, on a tellement notamment au niveau matériel, qu'effectivement, il y a des incertitudes du point de vue économique, du point de vue environnemental, qui nous font certainement beaucoup plus peur qu'à d'autres. Et ça remet en cause aussi, en fin de compte, je pense, tous ces acquis sur lesquels on a vécu largement pendant bien des siècles. En fait, c'était une chose qui me venait à l'esprit. Et puis une autre chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fait que l'incertitude, c'est enfin le pire n'est jamais sûr. Et ça, c'est une réflexion quelquefois qu'on se fait. Mais le pire n'est jamais sûr. Et l'incertitude, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être aussi très positive. Et heureusement que, heureusement qu'on n'a pas. Sinon, on serait sur une ligne dramatique. Et je pense que l'incertitude. Enfin, pour moi, il y a quelque chose entre l'individuel et le collectif qui est différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des certitudes du point de vue individuel. Sachant qu'on est évolutif aussi en fonction de notre expérience. Et je pense qu'on s'aperçoit en vieillissant que finalement, moi je me dis, est-ce que j'ai des certitudes ? Je ne suis pas très sûre finalement, peut-être sur ce que je suis, mais voilà. Mais voilà, on a peu de certitudes. Enfin, est-ce qu'on peut s'asseoir d'une manière générale sur des certitudes ? J'y crois pas vraiment en fait. Même du point de vue scientifique, on voit bien que les choses évoluent, elles évoluent en permanence en fin de compte, et les certitudes, c'est temporaire. C'est des certitudes on a beaucoup de certitudes pour moi qui sont temporaires, du point de vue à titre individuel comme à titre collectif.
Oui.
Oui, c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez que dans l'absolu, il me semble que la connaissance ne lève pas l'incertitude. Puisque la connaissance change tout le temps. Bon, alors, la Terre tourne autour du Soleil, ça, pour l'instant, je pense que rien qui n'a démontré le contraire. Mais dans beaucoup de domaines, c'est un peu ce que vous disiez, c'est provisoire, la connaissance. Et que, du coup, la connaissance évolue aussi parce qu'on s'autorise à poser des questions malgré la connaissance. Donc la connaissance, c'est une réponse à un moment donné à des questions qu'on s'est posées, parce qu'on reste quand même quelque part toujours un petit peu dans l'incertitude.
Oui, et en même temps, je me demande s'il ne faudrait pas distinguer l'incertitude et le doute. Voilà, parce que la connaissance, elle évolue. La connaissance scientifique, on change les paradigmes, mais il n'empêche que la connaissance, elle semble quand même nous conduire vers une connaissance de plus en plus juste. Enfin, voilà, la remise en cause de la connaissance n'est pas pour autant la mise en place d'un autre système de pensée qui serait à égalité avec celui qu'on vient de quitter et qui ne vaudrait à la limite guère mieux. Non, en fait, les nouveaux systèmes scientifiques, ils nous permettent d'appréhender, de mieux maîtriser notre environnement, l'astronomie fait des découvertes absolument extraordinaires. Alors, du coup, la seule chose que se dit un scientifique, c'est que la connaissance, elle n'est pas bouclée, elle n'est pas achevée. On le disait, au niveau de la perfection, on ne connaît pas le monde tel que Dieu pourrait le connaître. C'est-à-dire avec un système clos qu'on n'interrogerait plus. Nous, on se doit de constamment interroger notre savoir, non pas parce qu'il n'aurait pas de valeur, mais parce que, justement, il faut constamment continuer à consolider, fonder, quitte à le faire évoluer, ce qui peut nous paraître de manière radicale. Mais en fait, les manières radicales par lesquelles on le fait évoluer nous permettent d'avoir des sauts de connaissances, quoi. On connaît véritablement mieux, on connaît plus loin, on connaît peut-être plus profondément si on prend la physique quantique. Donc la connaissance scientifique semble quand même suivre un fil qui nous amène à des certitudes de plus en plus, j'ai envie de dire, assurées, même si, j'ai envie de dire, la sagesse scientifique fait qu'on dit « Oh, attention, malgré tout, on n'y est pas encore à la connaissance absolue. On tend vers, mais on n'y est pas encore. » Donc ça serait le doute. Alors que dans l'incertitude, peut-être que face à des choix que j'ai à faire, les différentes possibilités qui s'ouvrent à moi peuvent se présenter à moi à égalité. C'est-à-dire, elles ont autant de valeur les unes que les autres. Ou elles ont autant peu de valeur les unes que les autres. Donc du coup, là, la question, elle est, c'est là où je pense où ça devient vertigineux. C'est-à-dire, il me faut choisir. Est-ce qu'il me faut choisir? Parce que mon choix, d'une certaine manière, pourrait être arbitraire. Pourquoi A plutôt que B, plutôt que C? J'en sais rien, c'est l'incertitude, quoi. Donc là, pour le coup, on a le sentiment d'avancer en aveugle. Donc peut-être, oui, travailler la distinction entre incertitude et doute. Le sceptique doute, mais ça n'empêche pas de vivre, quoi. Voilà, celui qui est dans l'incertitude, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse dans l'incertitude. J'attends mes résultats médicaux. L'incertitude, je ne sais pas si ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Le moment de l'attente, là, c'est existentiellement lourd.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je reviens à ce que vous dites pour ceux qui vivent tout le temps angoissés, ou je reviens à la dame qui avait parlé de on se crée sûrement des angoisses beaucoup moins proportionnelles à certains. Alors, ça serait peut-être dû, je ne sais pas, c'est-à-dire, je pense que l'homme, enfin, avec un grand âge, il est fait pour qu'il y ait de l'action, il n'est pas fait pour rester sur un lit et qu'il ne se passe rien dans sa vie. Donc, l'angoisse, l'anxiété est quelque chose de bien, justement, mais comme disait le monsieur à côté aussi tout à l'heure, ça permet de plus en plus se développer, voilà, toute la science, et donc ce serait quelque chose de naturel. Donc faire face à l'incertitude, c'est juste l'accepter, voilà, je pense, parce que ça fait partie de nous, ça ferait partie de nous, d'après moi, voilà, c'est pas quelque chose qui peut partir, donc l'accepter...
C'est intéressant parce que la dame, elle a parlé sur la France, sur un pays stable. Moi, je suis d'un pays instable. C'est-à-dire que je peux faire cette comparaison. Je pense que monsieur, il a parlé sur l'expérience qu'on apprend avec les expériences qu'on a dans la vie. Et quand on vit dans une société instable, on doit faire face à l'incertitude depuis la nuit du temps. On ne sait pas ce qui peut arriver en coup d'État. Peut-être la banque, elle va prendre toute notre épargne. Peut-être les États-Unis vont faire quelque chose pour changer toute la politique. Peut-être qu'on va avoir une inflation très grande. Et il faut apprendre, peut-être l'argent, la monnaie, elle va changer de nom, elle va changer de valeur. C'est l'incertitude. C'est beaucoup d'expérience, d'incertitude. Je pense que ça fait qu'on peut développer cette capacité que monsieur vient de dire, d'accepter d'être plus résilient. Et ici en France, je vois que comme la société est plus formelle et stable, ça c'est aussi lourd, surtout pour les jeunes, parce que au Brésil, on a des excuses. Ici, non.
Alors, si je comprends bien, on pourrait dire par exemple qu'au Brésil, l'incertitude serait liée à des événements extérieurs qu'on ne contrôle pas. Et donc, je serais dans une forme nécessairement de soumission ou de passivité. J'ai pas trop le choix. Ça serait ça, l'acceptation. Oui ?
Non.
Non.
Je suis exposée à l'incertitude et à ce moment-là, il faut faire face, il faut trouver un moyen de faire avec.
D'accord, donc l'adaptation, elle n'est pas conçue sur le mode de la passivité ou de la soumission, elle est conçue sur un mode actif d'adaptation.
Exactement.
Et puis de se débrouiller, quoi.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Alors qu'en France, on serait plutôt passif, alors. Non ?
Non, je ne pense pas. On
non.
ne peut pas dire ça
aux
Français. Mais je pense que comme les Français sont moins exposés à certaines incertitudes, elles deviennent plus angoissantes.
Ah, d'accord. On n'a pas l'habitude, quoi.
Exactement.
Voilà,
exactement.
D'accord.
C'est cette résilience qu'on va développer au crédit, d'accord. Parce qu'on est obligé. On n'a pas le choix. Mm-hmm. Et ici en France, non. je peux faire des projets. Quand je suis arrivée ici en France, j'ai trouvé intéressant parce que tout c'est un projet.
D'accord.
Tout c'est projet. Et au Brésil, c'est pas comme ça. On ne fait pas beaucoup de projets parce qu'on connaît très bien que tout peut changer. D'accord. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir les plans A, B, C, D. Parce qu'on connaît qu'il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. Et pour le français, bien sûr que même que c'est un pays très, très, beaucoup plus stable qu'au Brésil, ce n'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître, parce qu'il y a des gens qui ressemblent à être dans une bulle, et ils pensent que bon, le français est râleur, c'est normal. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que le français, il fait beaucoup de projets, et ça marche, la plupart du temps. Mais quand ça ne marche pas, c'est très angoissant. Et elle prend beaucoup au cœur. L'échec pise, c'est pas facile pour le français.
D'accord. C'est pas lâcher prise. C'est-à-dire qu'on s'accroche à nos certitudes.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
On aime les certitudes.
Oui, c'est ça.
Nous
avons la certitude.
Ouais.
Mais l'incertitude, elle n'est pas seulement morale, elle peut être physique, matérielle. On a beaucoup parlé de l'incertitude morale, mais la première des incertitudes, c'est, par exemple, est-ce que je serai vivant ce soir ? Il y a des pays où la question peut se poser, il y a des situations politiques où la question peut se poser. Et là, l'incertitude, elle est vraiment énorme, et je pense que les gens se posent peut-être moins de questions que ce qu'on se pose par rapport à des incertitudes climatiques il y a 20, 30 ou 50 ans. Donc eux, ils ont à faire un choix tout de suite, maintenant, parce que leur incertitude, c'est, je sais pas, l'homme préhistorique qui doit aller chasser, il sait pas s'il va revenir, mais son incertitude, il doit bien la gérer et il y va. Et je pense qu'il se pose moins de questions que nous parce qu'il sait son objectif et il sait ce qu'il a à faire. Et je pense qu'en fait, nos incertitudes, c'est on projette peut-être notre absence de projet, notre absence d'envie, notre absence d'objectif, de confiance en soi ou autre. Parce que je pense que confronté à certaines incertitudes beaucoup plus grandes que celles qu'on a dans notre société qui va jusqu'au principe de précaution, on se pose peut-être moins de questions.
D'accord. Donc le rapport à la au danger et la nécessité d'y faire face. C'est-à-dire à certains moments, il n'y a pas le choix, donc il faut y aller, qu'il y ait incertitude ou pas.
C'est peut-être la problématique de la balance gain et perte en fait. Parce que est-ce que c'est pas accepter de perdre, mais c'est aussi quand on n'a rien à perdre en fait, c'est assez facile de faire des projets. Et quand on a beaucoup de choses à perdre, c'est effectivement plus angoissant. Ça serait aussi dans la balance, ouais. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre.
Qui est un calcul rationnel, hein. C'est-à-dire, effectivement, je mets le pour, je mets le contre, et puis je vois où ça penche.
Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle des problèmes de riches ? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, c'est un luxe d'être dans l'incertitude ? Parce que, ou est-ce qu'il faut regretter l'état sauvage où l'incertitude n'était que l'incertitude sur la survie ? Ou est-ce que finalement, le fait d'avoir des incertitudes, c'est le résultat d'une civilisation, d'une humanité qui a évolué et qui fait que peut-être on peut déplorer qu'on a des incertitudes sur des choses qui sont peut-être insignifiantes, ou qui sont très personnelles, ou qui ne font pas si grave que ça, mais est-ce que ce n'est pas justement le signe d'une évolution de la pensée de l'humain ?
Alors c'est intéressant, parce que le doute dont on parle, en fait, pour notre civilisation, les sceptiques, en fait, ça commence avec Montaigne, 16e siècle, c'est Descartes qui place quand même le doute au cœur de sa pensée, donc c'est la modernité, et comme par hasard, c'est le début de la science, donc de l'ère scientifique, et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que Descartes, c'est un technicien, lui ce qui l'intéresse, c'est la technique.
Et la science, elle doit être au service de la technique, parce que la technique doit servir au développement de l'humanité. Ça veut dire quoi ? Disons les choses autrement, ça doit servir au développement de la richesse nationale. Donc, effectivement, l'incertitude au sens de possibilité à douter, elle a quand même, au départ, pour fonction d'améliorer notre condition d'être. Donc, quand on dit, mais après tout, est-ce que ce ne sont pas des problèmes de riches ? J'ai envie de dire, mais très certainement, oui. Oui, oui, ce sont des problèmes de riches. Et donc, le devenir de l'humanité, par exemple, gérer le problème climatique, oui, c'est un problème de riches. Un, parce qu'il faut avoir le temps d'y penser. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas produire. Il ne faut pas être lié au problème de sa survie. Est-ce que je vais être encore vivant ce soir ? Voilà, ça c'est clair. C'est problème de la guerre, mais problème aussi de la famine, ou des choses comme ça. Donc prendre en charge le réchauffement climatique, oui, il faut pouvoir le faire. Il faut en avoir la connaissance. Donc il faut avoir eu une instruction. Il faut avoir pris le temps d'éduquer une population qui peut comprendre les problèmes physiques, chimiques et autres, géologiques et autres, pour que la population puisse avoir un avis éclairé. C'est-à-dire, effectivement, peut-être cette certitude qui arrive, mais qui fait que si on doit choisir, et bien encore faut-il ne pas choisir n'importe quoi. Parce que ce qu'on va devoir choisir aura des conséquences pour notre génération et pour la génération d'après. C'est ça le principe de précaution aussi. D'ailleurs, le principe de précaution, c'est de dire, attention, là, non seulement les conséquences, il faut les voir, j'ai presque envie de dire à court terme, ce pourquoi on les prend, mais il faut en prime tenter d'aller imaginer ce que ça va donner dans 50 ans. Parce qu'en fait, on ne choisit pas pour nous, on choisit pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc la certitude, elle commence à s'effondrer, quoi. Qu'est-ce que le choix qu'on fait aujourd'hui va donner demain ? Donc là-dessus, il faut des institutions qui soient extrêmement puissantes en termes de savoir, de technologie, de capacité à se projeter. Donc oui, du coup, l'incertitude et devoir faire des choix, faire face à l'incertitude, c'est peut-être le devoir des pays riches. Parce que les pays pauvres ne peuvent pas faire face à l'incertitude, quoi. Puisque eux, ils sont dans le ici et maintenant. Comment survivre ici et maintenant ? Faire face à l'incertitude de demain, ouais.
Moi, madame, ce qui me...
Non, allez-y, réagissez. Oui.
Je réagissais, on en parlait avec mon mari. En fait, comment lui dire ? Que ça soit à l'heure actuelle, moi je le sens dans un pays où je ne décide plus rien,
ouais.
Où les autorités politiques notamment savent pour moi, orientent pour moi et tout, et bien que je sois citoyen de ce pays, ouais. Je me sens sans possibilité de faire des choix. Et
dépossédé.
C'est pour ouais. ça que je veux dire que laisser toujours le choix, enfin moi je préfère avoir une incertitude, avoir des choix, je choisis, je fais un choix, j'espère qu'il sera bon, j'ai fait le choix. Et je vis avec un choix que j'ai fait, et s'il s'avère qu'il n'est pas bon, eh bien, à nouveau l'incertitude, et à nouveau, je recherche d'autres choix, une solution et tout. En fait, bien sûr, c'est pas toujours merveilleux, hein. Je dis pas que je suis. Là, actuellement, j'aimerais pouvoir être un peu plus. Faire des choix. Justement sur le réchauffement climatique
et autres
et sans avoir forcément des connaissances vous savez voir les pingouins devoir ne pas revenir pour s'occuper ou les ours ne pas pouvoir revenir pour s'occuper de leurs oursons parce qu'il y a eu tellement de réchauffement que elles n'y arrivent plus, enfin je veux dire, vous voyez, bon,
on a les connaissances nécessaires pour pouvoir juger que l'heure est grave, quoi.
Oui, et ne pas laisser essentiellement une ou deux personnes politiques diriger et prendre des solutions et tout, je ne me sens pas du tout interpellée ni consultée.
C'est aussi le fait d'être responsable de ses choix, c'est-à-dire être adulte ou citoyen, c'est aussi être responsable de ses choix. Donc quand quelqu'un d'autre décide pour nous, c'est vrai que ça nous dépossède de ce choix, et là ça pose très clairement le problème de la démocratie. Voilà, là, très clairement, effectivement, cette certitude-là.
Je voudrais revenir sur la question des problèmes de riches. Je voulais rajouter aussi que c'est aussi des problèmes de riches parce qu'on est quand même peut-être en tant que pays riche un petit peu responsable de ce qui se passe par rapport aux pays plus pauvres. Et je trouvais que justement la notion d'incertitude avait évolué aujourd'hui avec la mondialisation parce que le fait d'extraire tel minerai, telle chose comme ça, avait aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde mondialisé, des conséquences économiques, climatiques et tout ça, à l'échelle mondiale. Alors qu'avant, ça se faisait sur une échelle beaucoup plus réduite, et que si jamais on utilisait une rivière, ça allait avoir un petit impact sur la région, alors qu'aujourd'hui, on est à des quantités de... Enfin, l'impact devient absolument énorme, et du coup, ça devient tellement complexe que le moindre truc peut prendre des proportions et aussi, enfin, pour moi, ce niveau de complexité augmente l'incertitude parce que ça devient très difficile à évaluer. Et c'est aussi ça, l'incertitude qu'il y a avec le réchauffement climatique. Même si on a des pistes, c'est très difficile. Enfin, on a plein d'hypothèses différentes. Et du coup, c'est pas anodin aujourd'hui.
La complexité, la mondialisation et le fait que du coup, quand je vais faire un choix, c'est plus simplement moi ou ma communauté qui est impactée, mais je sais que en fait, on est tous liés, donc on engage le monde dans son ensemble. Quoi.
Ouais.
C'est très global.
Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment dépossédé du choix. Est-ce que c'est justement pas au-dessus qu'ils ne font pas de choix et c'est à nous de les faire? Ça interroge aussi notre capacité à nous organiser pour supprimer des certitudes. On a perdu peut-être quelque chose, c'est une forme de solidarité. C'est-à-dire qu'on s'est plus organisé, on est devenu plus individualiste et cette sécurité-là, cette sécurité entre guillemets, nous met peut-être dans une incertitude qui fait qu'on ne bouge plus. Et je pense que, est-ce que c'est vraiment qu'au-dessus on décide pour moi, ou est-ce qu'au-dessus on décide pas, mais moi je ne sais plus décider? Enfin, c'est plus cette question-là. Après tout, on est dans une démocratie. On n'est pas en Corée du Nord. Donc on a des leviers. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas perdu une forme de solidarité, une forme d'action collective? Je pense qu'il y a des pays où ils sont capables de s'organiser, de faire des mouvements beaucoup plus importants et que cette capacité d'organisation nous fait penser que déjà on est plus individualiste, plus isolé et donc plus confronté à l'extérieur.
Alors ça pose quand même le problème de l'action. C'est-à-dire effectivement, mon action, est-ce que j'attends qu'on me la dirige du haut avec un système de pouvoir qui serait sous forme pyramidale, qui peut donner du coup le sentiment que je suis dépossédée de mes choix, ou est-ce qu'il faut commencer vraiment à repenser ce que la Révolution française a détruit, à savoir les logiques presque de corporation. Alors aujourd'hui, on pourrait dire les associations, mais penser justement une action sur un mode horizontal, sur le mode de la mutualisation, de la solidarité, etc., qui ferait du coup que si j'ai des incertitudes, le fait peut-être de m'engager dans une association quelconque, donc avec d'autres, avec le collectif, viendrait quand même renforcer les certitudes que j'ai, peut-être simplement d'agir dans le bon sens. Le groupe, la force du groupe, viendrait un peu baisser cette pression, ou cette angoisse que l'incertitude pourrait générer. Ouais. Et l'inaction, du coup, l'inaction, le sentiment de se sentir vulnérable.
Oui, mais je pense qu'on n'en est pas arrivé là par hasard. Enfin, le problème de la démocratie, il y a bien... On n'est pas différent de la Révolution française, du siècle des Lumières. On est les mêmes personnes, on est capable de réfléchir, de penser. Je pense qu'il y a eu quand même tout un travail plus ou moins conscient de la société de consommation, de tout un tas de choses, pour justement créer de l'individualisme, et qui fait qu'on ne sait plus peut-être agir collectivement. Mais ce n'est pas par hasard. Je pense qu'on en a toujours les capacités. C'est que la société nous incite à nous diviser. Malgré tout, justement, peut-être que le politique, c'est son intérêt, qu'il n'y ait pas ces mouvements, ces corps intermédiaires qui ont été laminés quand même il y a quelques années, pas si longtemps. Et ce n'est pas par hasard, à mon avis.
Oui, tout à fait.
La solidarité, c'est une des choses plus belles que j'ai trouvées en France. Parce que je pense que c'est plus facile de parler de solidarité quand les problèmes basiques sont déjà résolus. C'est ça que vous avez dit avant. Et vous avez dit une chose très intéressante, on est tous liés. Et on a des problèmes comme planète. Et on est tous liés. La dame, elle a parlé sur peut-être c'est nous qui a causé ces problèmes. Nous, les pays industrialisés. Au Brésil, je raconte ça parce que je pense que c'est intéressant pour vous de savoir. Il y a beaucoup de gens qui disent le réchauffement climatique n'existe pas. Ça, c'est encore une stratégie de pays riches pour nous empêcher de développer tout ce qu'on peut développer. Et cette méfiance, elle n'est pas pour rien. C'est-à-dire que la solidarité, je pense que ça doit être une certitude. Et qu'on est tous liés, ça doit être aussi une certitude. Et à partir de là, on peut faire face à toutes les autres incertitudes.
Il faut se donner des certitudes, c'est ça?
Au moins, cette base...
La base, le fondement dont on parlait. Ouais,
exactement.
Hein.
Ouais. Parce que si on ne peut pas tous croire qu'on est tous liés et que la solidarité, elle doit être pour tous les planètes, on va directement au abysme. C'est
ouais.
Sûr. Au abysme.
Droit dans le mur, on dit chez nous. Enfin, le mur.
Ouais.
Oui.
Il me semble que la difficulté de l'incertitude, c'est qu'elle peut surgir de n'importe où. Et pour moi, un symbole de l'incertitude, c'est le 23 février 2021. Le lendemain, c'était le début de l'opération militaire spéciale. Et ça, parce que jusque-là, on parle du réchauffement climatique, on parle d'autres problématiques éventuellement économiques, mais c'est quelque chose qu'on a en tête depuis des années, on s'y attend, on y réfléchit. On a des incertitudes, mais on a quelques pistes. Mais ça, on ne s'y attendait pas. Et l'incertitude, c'est ça. On ne s'y attendait pas du tout.
Elle peut surgir de n'importe où. Oui, alors, du coup, il y a des incertitudes, il y a des événements qui tout d'un coup nous confrontent à une incertitude, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Mais j'ai presque envie de dire, au bout d'un moment, il va falloir agir. Donc une déclaration de guerre, par exemple, d'un pays envers un autre, effectivement, on ne s'y attend pas, on pense que c'est improbable, et puis ça advient, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire, même si on ne fait rien, le fait de décider de ne rien faire, c'est faire, quoi. C'est choisir de ne rien faire. Donc, comme si, face à certaines situations, en fait, le non-choix, la fuite n'était pas possible. Parce que même fuir, c'est faire un choix. C'est faire le choix de la fuite dans telle situation. L'autre difficulté, il me semble, c'est effectivement le rapport à la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre sans incertitude ? Voilà. visiblement, le propre d'une vie humaine, c'est d'être confronté à l'incertitude. Et pourquoi on y est confronté ? Parce que si les humains peuvent vivre dans l'incertitude, les animaux, c'est une question qui ne les préoccupe pas, ou en tout cas, on ne s'en rend pas compte, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on suppose qu'en tout cas, chez l'animal, qu'il y a un instinct. C'est-à-dire la nature le guide. La nature, en tout cas, lui donne une ligne qui fait que l'animal sait en gros ce qu'il doit faire selon l'espèce à laquelle il appartient. L'humain, lui, il ne sait jamais ce qu'il a à faire. Alors c'est vrai que c'est pratique d'avoir des dogmes collectifs qui nous disent comment on doit agir. Ça nous rassure parce que le fait de devoir choisir, c'est angoissant. Voilà, on a toujours peur de l'erreur. C'est tellement mieux quand c'est un autre que moi qui me dit ce que je dois faire. Parce que ça m'enlève ma responsabilité. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est que tout le monde fait comme moi. Et donc, dans ce rapport en miroir, il y a quelque chose qui, du coup, vient me conforter dans le fait que c'est très certainement ce qu'il doit faire, ce qu'on doit faire. Parce que si ce n'était pas ça, il y en a bien d'autres qui ne le feraient pas. Et non, tout le monde fait la même chose. Donc, du coup, c'est vrai qu'on fonctionne assez sur un mode grégaire qui a pour finalité, en fait, de réduire nos incertitudes, donc de réduire nos angoisses et peut-être aussi de nous donner du plaisir, parce que quand ça marche, quand ça fonctionne, la force du collectif, elle est énorme. Donc tout d'un coup, c'est nous, c'est le nous qui peut se glorifier d'avoir réussi à faire quelque chose. Le seul problème, c'est que dans ce nous, celui qui veut agir ou penser autrement, au départ, si le nous devient très fort, la personne, elle est stigmatisée. Donc, elle a le sentiment total d'une perte de sa liberté, d'une dépossession de soi, d'une dissolution du soi dans le collectif, qui fait qu'on peut aller jusqu'à une perte de l'idée d'une consistance de son être. Donc, du coup, être soi, qu'est-ce que c'est ? C'est oser penser par soi-même, c'est oser être libre. Mais à partir de ce moment-là, personne d'autre que moi ne peut penser à ma place. Donc ça veut dire qu'il faut bien que j'accepte de me défaire d'un certain nombre de mes certitudes, des certitudes notamment, qui sont celles véhiculées par mes communautés d'appartenance. Mais du coup, ça me confronte au risque. C'est-à-dire, maintenant c'est moi et moi seule, c'est moi qui décide, je décide pour moi. Donc ça veut dire aussi que si ça ne fonctionne pas, j'en suis le seul responsable. Je ne peux plus projeter en fait mon échec sur quelqu'un d'autre. Donc ça génère de l'angoisse. Mais si on est un tant soit peu sartrien, que dit Sartre ? Sartre dit, mais vous touchez là ce qu'est la liberté chez l'homme, quoi. L'humain est fondamentalement libre, pourquoi ? Parce que la condition humaine, c'est une condition qui amène chacun à devoir faire des choix pour se construire dans l'être qu'il est, ça au niveau individuel. Et puis plus généralement, c'est une espèce qui a à faire des choix pour l'avenir qu'elle va se donner à elle-même. Alors, forcément, si on accepte de penser par soi-même, c'est pas simple, parce que ce que je pense, moi, être le mieux ou être le vrai, n'est pas nécessairement ce que pense mon voisin. Du coup, il faut accepter une certaine forme de conflictualité. Et la base de la démocratie, logiquement, c'est ça. C'est-à-dire, la démocratie, c'est un régime politique qui repose absolument pas sur le consensus, mais ça repose sur les oppositions. Alors, les oppositions, du coup, c'est quoi ? C'est que chacun propose sa solution. Voilà. Donc, du coup, face à une difficulté qui est la mienne, je vais avoir 2 choix, 5 choix, 10 choix, 15 choix, 20 choix, 50 choix. Ce qui fait que, il me semble que ce qui serait intéressant de travailler, on a souvent utilisé ce soir l'expression « faire des choix ». L'humain, c'est un être qui a le choix. Voilà, avoir le choix C'est ce qui définit véritablement notre espèce. Mais ce n'est pas parce qu'on a la capacité d'avoir le choix qu'il est simple de faire des choix. Alors j'ai envie de dire, quand vous avez deux solutions, A ou B, en gros, voilà, on peut réussir à se décider. On peut faire face à l'incertitude. Je suis mathématicien, je fais des probabilités. A a plus de probabilités d'être bon que B. Ça va. Mes probabilités, même si je ne suis pas dans une certitude, ma probabilité, elle me dit que le choix que j'ai fait, c'est un choix qui est sensé. Mais quand j'ai 100 possibilités différentes, les scientifiques là, sur le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait ? Là, la difficulté, c'est que tout d'un coup, faire des choix, ça devient extrêmement compliqué quand on est confronté, j'ai presque envie de dire, à une infinité de choix possibles. Là, pour le coup, blocage. Blocage de l'action. C'est-à-dire, c'est pas que je voudrais pas choisir, c'est pas que je voudrais pas m'engager, c'est pas que je voudrais pas faire face à l'incertitude, mais là, il y a quelque chose qui fait que, confronté à la complexité des situations, eh ben, l'incertitude, au lieu de nous amener à agir, c'est au contraire ce qui vient véritablement arrêter, stopper, freiner net notre action. Et c'est peut-être ce qui est beaucoup plus angoissant que l'incertitude, en fait. C'est-à-dire, c'est pas l'incertitude qui est angoissante, parce qu'on a l'habitude de l'incertitude. La vie, elle nous confronte constamment à de l'incertitude, on ne sait pas. Mais ce qui est angoissant, c'est quand tout d'un coup, l'incertitude devient telle face au choix qu'on a à faire, que je ne peux plus agir. Parce que quand je peux agir et être responsable de mes choix, oui, j'ai fait un choix, peut-être que ce n'est pas le meilleur, l'avenir me le dira. On est vraiment dans une logique conséquentialiste. On va voir ce que l'avenir va nous dire de nos choix, parce qu'il y a tellement d'éléments que je ne possède pas, que je sais bien que quand je vais lancer mon action dans le monde, va venir la percuter des lignes causales différentes qui font qu'in fine, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je prends le risque. Mais quand tout d'un coup, je ne peux même plus prendre le risque, tellement c'est complexe, tellement c'est global, tellement j'ai le sentiment que même si j'agis, en fait, mon action n'aura pas de répercussions réelles. Donc j'espère que d'autres vont quand même agir, d'autres que moi vont agir, parce que tout simplement, je pense que leur action, elle peut être plus puissante que la mienne. Et là, ça commence à poser problème. C'est-à-dire, du coup, la liberté du sujet, qui ne se pense que d'être confronté à l'incertitude, elle est remise en cause parce que l'incertitude, en fait, n'est presque plus là, tellement elle est diluée dans tous les possibles qui me sont offerts. Voilà. Donc oui, là, c'est le faire face, du coup, qui disparaît. Et la dignité d'un homme, c'est peut-être justement dans le faire face. Voilà. L'humain se tient et est digne parce qu'il arrive à faire face, effectivement, à l'incertitude. Dont l'incertitude de ma propre mort. Hein. Rien ne dit que je ne vais pas être renversée en voiture en rentrant ce soir à vélo chez moi. Hein. Mais bon, on vit avec. Hein. Voilà. Parce que ce n'est pas une incertitude qui sclérose. Voilà, c'est l'incertitude de l'existence. Voilà, si je ne vis pas, il y a un risque à vivre, il y a un risque à choisir, cette incertitude, elle est inscrite au cœur de l'existence. C'est pas la même chose que se faire des choix qui, confrontés à une telle multitude plurielle, fait que tout d'un coup, on ne peut plus choisir, en fait. Voilà. Donc, comme on le disait, vive le fait de pouvoir faire des choix, faire face à l'incertitude. Voilà, pouvoir y faire face, c'est-à-dire pouvoir effectivement s'y confronter, trancher, tenter, essayer, échouer, parce que voilà, il y a de l'échec, et puis se relever. Est-ce qu'une vie réussie, c'est pas une vie semée d'échecs qui se termine par un petit succès, quoi, petite satisfaction, après tout. Oui, la majorité de mes choix n'étaient pas bons, mais in fine, voilà, c'était pas si mal que ça.
Le fait d'agir nous fait croire qu'on n'est plus dans l'incertitude.
Et alors, je poserais peut-être les choses autrement, c'est-à-dire, est-ce que pour agir, il ne faut pas cette croyance en des certitudes fondamentales, de base, qui amenait parfois au changement de paradigme? Là, par exemple, est-ce que pour agir, il ne faut pas accepter de croire en la solidarité? Alors même que la solidarité, il n'y a peut-être rien de plus incertain. Voilà, vous voyez, voilà. Voilà. Mais je le pose. Voilà. Tout d'un coup, il y a un acte de volonté qui vient trancher et qui vient dire ça, je le pose. Je le pose comme une croyance fondamentale. Et à partir de là, je peux gérer toutes les incertitudes possibles. C'est-à-dire, est-ce que la majorité des gens de mon quartier vont manger demain? Ben oui, parce qu'on peut agir, on peut mettre en place les restos du cœur, on peut, voilà. Les choses deviennent faisables. Parce que, à la base, il y a une croyance fondamentale. Ouais. Pas d'action sans croyance, je pense. Il faut croire en. Merci. Alors, pour ceux qui arrivent pour la première fois au Café Philo, nous avons donc maintenant un temps de convivialité. Mais je tiens surtout à vous présenter mon collègue, ami, co-animateur, Nicolas Déré, donc qui est professeur ici à Janzay, grâce à qui nous sommes accueillis aussi au lycée Janzay, et qui animera donc la prochaine fois le prochain Café Philo.
Voilà.
Alors, moi, j'ai toujours besoin qu'on me redise les choses, Marie-France. Les chaises, comment les range-t-on ? Voilà, on remet les tables. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, juste à remettre les tables et les chaises autour des tables. Merci beaucoup.